nzamba
nzambira samirana
Mardi 7 septembre 2021, c'est l'heure du journal sur la radio Inzambagate Kakawe. Voici d'abord les titres. Mauvaise surprise, la dernière place au classement de l'examen d'état revient à la mairie de Bujumbura. En état de fait que le ministre de l'éducation explique par la présence dans la ville d'établissements qui font régresser la qualité de l'enseignement. Le gouvernement peine à trouver une solution à la pénurie qui perdure dans le pays. Le coût du litre a presque triplé sur le marché noir, seul endroit où le produit est encore trouvable. Toujours pas de justice dans le dossier des trois sœurs italiennes assassinées à Kamenge en mairie de Bujumbura. Cela fait exactement 7 ans qu'elles ont été tuées. Voilà pour les titres. Au micro, vous êtes avec Josine Kadze. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Deux personnes soupçonnées d'être des voleurs ont été tuées et deux autres se sont noyées dans la nuit de ce lundi à mardi dans le lac Tanganyika. Ils sont morts au cours d'un échange de tirs avec les militaires de l'unité lacustre de Minago en commune et province Rumonge. Deux fusils ainsi que d'autres objets en leur possession ont été saisis. Les précisions avec Blaise Ninjimbere.
Les habitants du prolongement de la zone Minago estiment qu'il était à environ 10 heures du matin quand ils ont entendu des crépitements d'armes dans le lac Tanganyika. C'est dans la matinée de ce mardi que l'information a filtré. Des sources précisent que des militaires de la marine échangeaient des tirs avec un groupe de 4 personnes armées. Une information confirmée par une source militaire sur la position de Minago. La source affirme que 2 hommes ont été tués par balles et 2 autres se sont jetés dans les eaux du lac où ils se sont noyés. Des militaires ont aussi récupéré 2 fusils de type Kalachnikov, 70 cartouches et 2 bombes dans le bâton de ces 4 personnes. Ces hommes armés n'ont pas été identifiés, mais la même source militaire parle de la saisie d'une machine Yamaha 40 chevaux utilisée dans la pêche et un tank contenant 70 litres de carburant, ce qui laisse à penser que c'était des voleurs selon la même source. Des pêcheurs ont toujours dit être victimes du vol à main armée dans le lac Tanganyika. Certains sont même tués ou portés disparus. La rédaction de la radio Inzamba a appelé sans succès le porte-parole de l'armée burundaise,
le colonel Floribert
Biyereke,
pour plus d'éclaircissements sur cette attaque.
Des femmes et des filles au nombre de 8 ont été tuées dans les différentes provinces du pays au cours du mois d'août dernier. Ce triste bilan figure dans le bulletin mensuel du mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. Selon Maître Runja Immaculée, représentante générale de ce mouvement, parmi les présumés auteurs se trouvent certains membres du gouvernement. Elle demande aux autorités de respecter les droits de l'homme et lutter contre l'impunité qui s'observe au pays.
Nous avons répertorié 4 cas de viol des filles et 1 cas d'une femme. Nous avons aussi identifié 8 cas d'assassinat de femmes et de filles dans différentes provinces du pays. Et parmi les 8, il y a 4 assassinats de femmes et 4 assassinats de filles. Nous avons encore identifié un cas de violence domestique qui a été commise par le mari d'une femme. Aussi, nous avons pu identifier 2 cas d'arrestation arbitraire de 2 sœurs. Et la faute qui leur est reprochée, c'est parce qu'elles n'ont pas participé dans les travaux communautaires. Chaque cas, nous montrons comment ces femmes et filles ont été arrêtées, qui les a arrêtées et le motif. Chaque fois, il y a parmi les présumés auteurs, les membres du parti CNDD, des Imbonerakure, des agents de police, mais aussi des parents qui commettent ou des conjoints qui commettent ce type de violence à l'égard de leurs conjoints ou à l'égard de leurs enfants. La demande est toujours la même. Nous rappelons que le gouvernement burundais a un arsenal juridique de prévention de répression de tous les crimes, de toutes les violations des droits garantis par nos textes nationaux. Et ce que nous demandons, c'est de mettre fin à l'impunité, une impunité qui gangrène la gouvernance du Burundi.
Nous sommes le 7 août 2021 et cela fait donc exactement 7 ans que le triple assassinat des religieuses de la paroisse Guido Maria Conforti de Kamenge au nord de Bujumbura a eu lieu. Et donc autant d'années de déni de justice dans ce dossier. Les trois sœurs italiennes ont été sauvagement tuées dans leur couvent. La vérité sur ce triple assassinat reste toujours inconnue. Le rappel des faits avec Beni Akserakana.
Sœur Lucie de 75 ans et sœur Olga de 83 ans ont été tuées le 7 septembre 2014 vers 16h selon des sources à Kamenge. La troisième religieuse, lui, a été retrouvée morte, décapitée dans sa chambre entre 2h et 3h dans la nuit qui a suivi. Selon le témoignage du père Mario Puccini, un prêtre installé à Kamenge, le corps de cette troisième sœur, Bernadette Bogiado, 79 ans, avait été trouvé étendu dans une mare de sang, son visage portant des traces de coups. La presse burundaise a voulu savoir l'identité des criminels. Jusqu'à ce jour, la police nationale avait indiqué avoir mis la main sur le suspect du triple meurtre. Un jeune homme du nom de Christian Butoyi, un déséquilibré mental qui a été brièvement interrogé avant d'être conduit à la prison centrale de Mimba. Le porte-parole de la police nationale d'alors, Hermenegilde Halimenshi, avait déclaré que le présumé assassin a reconnu être l'auteur du triple meurtre. Mais les médias, très actifs sur ce dossier, ont prouvé que Christian Butoyi n'était que bouc émissaire et plus personne ne croyait à cette théorie. Le jeune homme finira par être conduit au centre neuropsychiatrique de Kamenge, dit chez Le Gentil. Début avril 2015, le journaliste Bob Lugulika de la RPA publie dans une interview exclusive des relations de Juvendu Imana, un agent du Service national des renseignements qui témoignait faire partie du groupe des assassins des trois religieuses à Kamenge. Il a vite été rappelé de la Somalie où il était en mission de maintien de la paix pour être conduit à son tour en prison. Depuis ce jour, le dossier a sombré dans les oubliettes, cela fait 7 ans déjà.
La mauvaise volonté de la justice burundaise d'enquêter sur les présumés auteurs de l'assassinat des trois sœurs italiennes est inédite. C'est le regret de Maître Jean-Jérémy Grimana, avocat et défenseur des droits de l'homme. Pour lui, c'est un signe qui démontre également combien la justice au Burundi reste un instrument des hauts cadres du parti au pouvoir accusé de différents crimes, dont celui des trois sœurs italiennes. Maître Jean-Jérémy Grimana appelle les autorités judiciaires à se ressaisir afin de rendre une justice aux victimes des crimes qui ne cessent d'être commis au Burundi. Suivez-le.
L'assassinat des trois sœurs d'origine italienne a été un crime d'État. Ça a été un crime grave, un crime qui a impliqué les hautes autorités de l'État burundais pour des raisons qui ne sont pas explicitées jusque maintenant. Mais ce qui est sûr, les teneurs du parti SNDFDD dont le régime était dirigé à l'époque par Pierre Nkurunziza, et ont tout fait pour obstruer la justice burundaise dans l'inertie et une réalité triste parce que les poursuites qui devaient être engagées n'auront pas été, les criminels n'ont pas été inquiétés, les quelques pistes qui avaient été évoquées, que ce soit par les organisations de la société civile, que ce soit les médias indépendants, n'ont pas pu être exploitées et jusqu'aujourd'hui, les criminels sur la cour d'où ce moment où les victimes attendent la justice qui tarde à venir. Nous pensons que le régime du CNDD-FDD a érigé la terreur et le crime en mode de gouvernance, sinon on ne comprend pas pourquoi depuis les crimes qui ont été commis contre les membres du FNL qui étaient à l'époque dirigés par Agathon Rwasa, sans oublier la répression aveugle d'Arosan qui a été infligée aux opposants politiques et notamment les membres du MSD, tous ces plans criminels ont été concoctés par le régime en place, le régime du CNDD-FDD qui dirige le pays depuis 2005, mais malheureusement la justice n'a jamais bougé. Nous interpellons alors donc les autorités burundaises, et plus particulièrement les ténors ou les criminels qui appartiennent à ce parti au pouvoir, de pouvoir se ressaisir et de savoir que la stabilité du Burundi réside dans un Burundi où le sang des innocents ne doit pas continuer à être versé.
Quelques secondes pour souffler, on se retrouve pour parler pénurie du carburant.
Inzamba.
Je vous le disais, la pénurie du carburant perdure dans les différentes provinces du pays. À Kayanza, par exemple, un litre d'essence sur le marché noir peut coûter entre 7 000 et 8 000 francs burundais. Le prix a presque triplé. Des inquiétudes se multiplient, surtout à la veille de la rentrée scolaire. Les usagers du carburant demandent à l'État de tout faire pour rendre ce produit disponible sur le marché. Le point avec Joséphine Johnson-Hunzimana.
Il s'observe depuis le soir de dimanche passé une pénurie du carburant de type essence en province de Kayanza. Les pompistes interrogés à ce sujet vous disent qu'ils ne connaissent pas ce qui a causé pareille situation et précisent qu'ils attendent d'être approvisionnés à partir de stocks situés dans les villes de Gitega ou Bujumbura. Quant aux usagers des motos et voitures taxi, ils font savoir que le manque de ce produit constitue un handicap pour leurs activités. Cette situation a déjà entraîné à la spéculation car les conducteurs disent que pour la poursuite de leurs activités, la petite quantité qu'ils utilisent est achetée chez des vendeurs clandestins de ce produit à des prix très élevés. Ici, ces mêmes conducteurs font savoir qu'un litre et demi d'essence s'obtient dans cette voie à un prix variant entre 7 500 et 8 000. Et pour ne pas travailler perdant, ils disent qu'ils sont contraints de revoir à la hausse le prix du ticket de transport. À titre d'exemple, pour ceux qui se déplacent à bord des voitures à taxi de type Probox, le trajet Kayanza-Bujumbura coûte aujourd'hui 10 000 francs, alors qu'antérieurement, il ne coûtait que 7 000. Le voyage Kayanza-Ngozi est passé de 2 500 à 3 000 francs beau. Pour ceux qui prennent les taxis moto, là où l'on payait 1 000 francs, aujourd'hui c'est 1 500. Quant à ceux qui doivent aller dans les communes, là où auparavant le prix du ticket était de 7 000, pour le moment, il varie entre 10 000 et 12 000. En province de Ngozi, la même situation date d'une semaine. Un litre et demi coûte 7 500, nous a confié un usager d'une taxi-moto. Et pour se déplacer à moto à partir du marché de la ville de Ngozi vers une localité dénommée Burengo, le prix a passé de 1 000 francs à 1 500. Concernant les voyages de Ngozi à Bujumbura, le prix du ticket a passé de 7 500 à 15 000 francs. À Muyinga, au nord du pays, encore deux stations-service sur 5 ont distribué du carburant, mais des gens qui en ont besoin sont nombreux, ils font la queue. Les usagers des voitures et mototaxis, de même que les passagers, demandent tous au gouvernement de disponibiliser ce produit pour la renormalisation de la situation, car d'aucuns disent que si rien n'est fait jusqu'au jour de la rentrée scolaire, les choses vont certes s'empirer.
Il n'y a toujours pas de solution à la pénurie généralisée du carburant. Le gouvernement est toujours à l'œuvre, c'est ce qu'a déclaré ce mardi Leonidas Osinda-Igaya, porte-parole du ministère en charge de l'énergie, dans un point de presse. Ce ministère est en train de négocier avec ses partenaires pétroliers pour une issue favorable. Écoutez.
Sans vergogne, je dirais qu'effectivement, il y a une perturbation dans l'approvisionnement du carburant à Bujumbura, comme même à l'intérieur du pays. Il y a quelques deux semaines, j'avais communiqué au public en disant qu'une stratégie avait été trouvée de commun accord avec les importateurs. Effectivement, on avait trouvé une voie par laquelle le carburant allait être distribué comme à l'accoutumée, mais des fois il y a des impondérables qui ne permettent pas que la situation soit telle qu'on la souhaite. Vous êtes majeur, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un État, les problèmes ne peuvent pas manquer. Le plus important, c'est cette volonté, cette détermination de les régler. Sinon, les problèmes existeront toujours, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les résoudre. Nous sommes à l'œuvre. Même hier, nous avons rencontré les importateurs, nous avons discuté et hier même, on a pu accorder les devises à ces importateurs-là. On a l'espoir que la situation va se normaliser bientôt.
C'est de la pure spéculation et une honte de mêler le travail de mandataires politiques et de commerçants. C'est du moins ce qu'explique Gabriel Ussili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM. Selon lui, le président de la République doit prendre des mesures radicales contre des autorités qui s'octroient des marchés publics, des produits de première nécessité. C'est suite à l'action frauduleuse qu'a posée la première vice-présidente du Sénat due à la vente illicite du sucre. On écoute Gabriel Ussili.
Nous voyons que les plus hautes personnalités de la République, à commencer par la première vice-présidente du Sénat, burundais, elle a été attrapée en flagrant délit en train de frauder aux vies et aussi de tout le monde, jusqu'à ce qu'elle récupère une amende de 2 millions de francs suite à une fraude qu'elle était en train de faire. Donc, en plus qu'il n'est pas autorisé ce genre de commerce, en tout cas au point de vue moral, éthique et de droit, c'est vraiment impossible qu'une autorité de terrain se trouve dans un commerce d'un produit par un service public. Vous savez que la Sosumo est à 100% publique. Et c'est madame la vice-première présidente du Sénat qui est chargée de contrôle de l'action gouvernementale. Et voilà, en plus de cela, elle est chargée de protéger et de voir que les droits des citoyens sont respectés. Mais voilà, c'est elle qui est en train de bafouer ses droits. Donc, c'est vraiment inacceptable. Vous le savez, il y a la pénurie du sucre, il y a la pénurie du carburant, il y a la pénurie du ciment, il y a la pénurie des médicaments. Donc, il y a pénurie de tous les produits de première nécessité suite justement à plusieurs facteurs, mais vraiment, les serviteurs publics, comme la plupart d'entre eux se trouvent dans ce genre de commerce, ils causent aussi ce genre de pénurie.
Les militaires qui ont été mis en retraite depuis 2 ans n'ont toujours reçu leur pension. Ils disent qu'ils ne comprennent pas la lenteur du traitement de leur dossier. Ils demandent à l'Institut National de la Sécurité Sociale, INSS, et à l'État-major général de l'armée de leur expliquer les raisons de ce retard. Plus de détails avec Vanessa Mohiteka.
Les militaires qui atteignent l'âge de la retraite, c'est-à-dire 45 ans, révolus viennent de passer bientôt 2 ans sans percevoir leur pension. Ces militaires indiquent que ce problème a débuté l'année passée. Quand devraient partir en retraite? Ceux qui ont vu le jour en 1975. Ceux qui devraient partir en retraite l'année en cours sont les militaires qui sont nés en 1976. Les militaires qui n'ont pas perçu leur pension depuis l'année passée avaient pourtant adressé des correspondances à l'Institut National pour la Sécurité Sociale, INSS en sigle. L'INSS avait à son retour accusé réception de leur demande et leur avait donné des numéros d'affiliation qui devraient être accompagnés par les frais de pension. Ces derniers font savoir qu'ils ont attendu ces frais.
L'INSS est une institution pour qui les militaires et les policiers disposent d'une grande partie de sa capitale. Aujourd'hui, nous sommes inquiets parce qu'auparavant, quand vous atteignez l'âge de 45 ans, il vous fallait seulement de constituer le dossier et le paiement de la pension était presque automatique, que vous soyez encore au service et après avoir quitté l'armée. Mais aujourd'hui, nous sommes à la deuxième année. Ceux qui sont nés en 1975 ont adressé des correspondances à l'INSS, mais ils ont attendu leur pension en vain.
Ceux qui vont partir en retraite cette année n'ont pas encore eu tous les documents exigés pour constituer leur dossier. Ils demandent à l'INSS et à l'état-major général de l'armée d'éclairer l'opinion sur ce problème.
L'année en cours, ceux qui devraient adresser des correspondances pour constituer leur dossier sont ceux qui sont nés en 1976. Les dossiers n'ont pas été reçus et aucune explication nous a été donnée. Alors que l'INSS est la nôtre car l'institution existe parce que nous faisons des cotisations mensuelles pour la sécurité sociale. Nous déplorons le silence radieux de l'INSS et celui de l'armée. Nous avons la soif de savoir les motifs qui auraient poussé le service du personnel de l'état-major G1 qui donne les attestations de services rendus. Nous avons aussi besoin de savoir pourquoi les dossiers de ceux qui sont nés en 1976 n'ont pas été acceptés et pourquoi ceux qui sont nés en 1975 n'ont pas encore reçu leur pension.
l'Institut national pour la sécurité sociale et l'état-major général de l'armée ne sont pas encore exprimés sur le sujet qui inquiète pourtant certains des militaires candidats à la retraite.
Terminons par cette étonnante nouvelle. La mairie de Bujumbura vient d'être classée dernière dans le classement des provinces du Burundi à l'examen d'État. La raison majeure avancée par le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions est que dans la mairie de Bujumbura, beaucoup d'écoles privées ne respectent pas les mesures du ministère, mettant ainsi en danger la qualité de l'enseignement. Le ministre François Zeliman appelle les parents à être prudents avant d'envoyer leurs enfants dans certaines écoles privées. On l'écoute.
Ce qui baisse généralement la moyenne de la mairie de Bujumbura, ce sont pour la plupart les écoles privées, dont l'encadrement est vraiment difficile. On est toujours derrière ces écoles. Il y a certains responsables de ces écoles privées qui considèrent les écoles comme des entreprises. Oui, une école, elle peut être considérée comme une entreprise, mais dont le résultat sera perçu à long terme. Et le problème alors pour ces promoteurs de ces écoles privées, pas toutes bien sûr, je souligne, parce qu'il y a des écoles privées qui sont quand même excellentes, mais dans la mairie de Bujumbura, on enregistre des écoles privées qui ont des problèmes. On court toujours derrière ces écoles pour les ramener à l'ordre. Vous comprenez que dans ces conditions, la qualité est vraiment bafouée. Donc, comme il y a trop d'écoles privées qui ne respectent pas certaines mesures qui sont données par le ministère, la qualité devient affectée et par conséquent, le résultat se remarque lors des examens nationaux. C'est la raison pour laquelle le ministère prend quelquefois certaines mesures qui vont même à la fermeture de certaines écoles. Même cette année, il y a des écoles qui ont été fermées. C'est la raison pour laquelle nous demanderons plutôt aux parents et aux élèves qui vont se faire inscrire dans certaines écoles privées d'être prudents, de s'informer auprès du ministère, principalement d'approcher la Commission nationale de l'enseignement fondamental et post-fondamental pour savoir si réellement l'école est en règle avec le ministère.
Vous saurez que dans ce classement, les trois provinces qui viennent en tête sont Karusi, Luyigi et Muyinga. C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs. Au revoir et à la prochaine.